Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Bonjour à tous, chers auditeurs, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes.
Une association internationale d'hommes et de femmes qui avaient un problème avec l'alcool. Non professionnels, politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règle d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leur problème d'alcool peuvent devenir membres. Basé sur les 12 étapes des AA, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux et utile.
Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Pour l'émission d'aujourd'hui, alors je suis bien heureuse d'accueillir Marie-Josée. Marie-Josée est une membre que je connais, alors je suis tellement heureuse de l'avoir à l'émission. J'ai cheminé aussi avec elle, puis on s'est côtoyé dans les meetings de AA et certains moments au cours des dernières années. Alors, je vous présente Marie-Josée.
Bonjour. Bonjour Isabelle. Je m'appelle Marie-Josée, je suis alcoolique. Merci Isabelle de ton invitation. Je suis tellement contente d'être ici avec toi aujourd'hui, si radieuse, tellement de bonne humeur, souriante. Puis je suis aussi heureuse de contribuer à, je dirais, au grand mouvement. Comme je disais tantôt, Isabelle, moi j'ai presque tout écouté sur Spotify, les partages qu'il y a sur l'émission Un jour à la fois. Et c'est vraiment une nourriture spirituelle pour moi, ces partages-là. Donc aujourd'hui, je suis vraiment touchée de venir contribuer avec mon histoire à moi pour enrichir le mouvement des alcooliques anonymes. Moi, je suis choyée. J'ai été libérée de l'alcool, comme nous tous, parmi les millions de membres dans le monde. J'ai été libérée de cette obsession-là. J'avais 35 ans. J'avais 47 ans quand j'ai été libérée. J'ai commencé à boire vers l'âge de 35 ans d'une façon maladive, d'une façon obsessive. D'une façon obsessive, je disais. Aujourd'hui, le mouvement des alcooliques anonymes compte plusieurs millions de personnes. On sait que l'alcoolisme, c'est une maladie spirituelle, une maladie émotive, en plus d'une allergie physique à l'alcool. Moi, l'allergie physique, je l'ai eue à 35 ans, mais la maladie spirituelle et émotive, déjà en jeune âge, j'étais malade. À cette époque-là, je le savais pas, mais maintenant, avec le recul, j'en prends conscience. Moi, j'ai 52 ans, je suis née en 69, de parents qui n'étaient pas mariés dans ce temps-là. C'était pas fréquent parce que la religion avait encore une place importante. Donc, ma mère m'a eu, elle avait 21 ans. J'étais pas vraiment désirée ou voulue, j'étais plutôt un accident. Mon père était pas vraiment dans le portrait, lui c'était un motard. Un peu olé-olé, qui aimait les femmes, la fête, la drogue, tout ça. Puis ma mère, elle provenait d'une famille très hypothéquée, très malade spirituellement, malade, tu sais, de la grosse misère, là, de la grosse misère avec de la violence. Donc moi, quand je suis arrivée dans le portrait, dans la vie de ma mère, eh ben elle était pas équipée pour prendre soin d'un enfant. Elle avait un trouble de personnalité limite. Elle était dépendante, mais pas de substance, aucune substance. Elle était dépendante de l'État parce qu'elle a été toute sa vie sur l'aide sociale. Elle n'a jamais eu de travail parce qu'elle savait pas qu'elle pouvait avoir un travail. Elle avait zéro confiance en elle. Elle avait une deuxième année. Donc, moi, quand je suis arrivée, ben, elle était vraiment contente. Mon père ne vivait pas avec nous. Donc, elle était contente un peu parce que c'était comme si elle avait une petite poupée avec elle. Elle pouvait l'habiller, puis, tu sais, mettre des beaux suits, des jumpers, puis tout ça. Tu sais, à ma première communion, j'avais une belle robe, tu sais, qu'elle avait payée cher et tout, avec le voile, là. En tout cas, c'était super impressionnant. Puis, mon père, qui habitait pas avec nous, ben il est venu à ma première communion. Puis, lui, il est arrivé avec son côte de cuir, puis les cheveux longs, puis, tu sais, c'était... Fait que moi... Où je veux en venir, c'est que avec ma mère qui n'était pas équipée pour avoir des enfants, j'étais enfant unique et mon père qui n'était pas présent, je me suis toujours sentie à part des autres. Je me suis toujours sentie pas normale parce que toutes mes amies, eux, leurs parents étaient mariés. Eux, leurs parents, ils faisaient des sorties ensemble, ils faisaient des fêtes d'enfants. Moi, on n'a jamais fêté ma fête. Tu sais, j'étais une petite fille super gênée, super timide. Je rentrais en dessous des tuiles. À un moment donné, mon prof de deuxième année, elle m'avait demandé d'aller au tableau en avant pour écrire quelque chose, puis je connaissais pas la réponse. Alors, je m'étais mis à pleurer en avant, mais tu sais, elle m'avait même pas chicanée. Pour moi, je me sentais pas comme les autres, anormale, honteuse, parce que je voyais que ma mère était hypothéquée, j'en avais tellement honte, puis que mon père aussi, il était pas comme les autres pères. Tu sais, il y avait pas de violence chez moi, sauf que ma mère, elle me frappait. Ben, il y avait pas de violence, c'est ça. Pas de violence avec des objets, mais ma mère me frappait avec ses mains. Elle me criait après. Mon père, lui, m'a donné un peu d'amour, mais il était pas souvent avec nous. Fait que moi, dans ma tête de petite fille, ben, j'espérais toujours qu'elle allait venir rester avec nous. Puis je me disais, c'est parce que je suis pas assez une bonne petite fille que mon père habite pas avec nous. Donc, j'ai grandi comme ça au primaire. J'étais vraiment une bonne petite fille, bonne à l'école. Quand j'ai eu 13 ans, on est déménagé à la campagne. Et avec mon père, ma sœur qui est arrivée et ma mère. Et là, je me disais, yes, enfin, on va être une vraie famille. Mais non, là, ça a été très particulier. On restait dans le bois, tout près de Mont-Laurier, sur le bord de l'autoroute 309. Et puis, mon père faisait pas le gazon. Il laissait pousser le gazon. On avait des vaches qui étaient lousses, des canards, des cochons, des chevaux. Tu sais, c'était vraiment comme hippie. Fait que moi, j'étais bien complexée de ça. Et j'ai fini mon secondaire 5 tout en étant honteuse, en me sentant pas comme les autres, même avec des états dépressifs. Moi, j'ai pas commencé à boire à ce moment-là parce que, personne n'est alcoolique chez moi. Donc, je savais pas que l'alcool était une soupape. Peut-être que si je l'avais su, je m'en serais servie, mais je le savais pas. Donc, là, ce qui s'est passé avant que j'arrive au cégep, il s'est passé des événements dans ma famille. Il y a une de mes tantes du côté de ma mère qui s'est suicidée. J'ai un oncle aussi qui a été accusé d'abus sexuels auprès de ses enfants. Et il avait fait la première page du journal. Là, il y a eu une condamnation en prison. Et moi, là, c'était la honte totale. Tu sais, je voulais me cacher avec tout mon sentiment d'infériorité que je venais d'une famille hypothéquée, malade, mentale, grave problème de santé mentale, ma mère qui avait un TPL, mon père qui était marginal. Là, moi, je me suis dit, hey, là, je me donne une mission dans la vie. Je dois devenir quelqu'un parce que je me sentais rien. Je me sentais pas humain. C'est bête à dire, hein, mais je me sentais pas comme avoir le droit de vivre ou d'être heureuse ou... Tu sais, j'avais pas eu d'amour de ma mère, très peu de mon père, parce qu'il était pas là. Fait que je savais pas que c'était quoi mon but dans vie. Je savais pas pourquoi j'étais en vie. Et aussi si je méritais de vivre. Je m'aimais pas, ça c'est sûr. Je me comparais toujours aux autres. Les autres étaient toujours, toujours mieux. Les autres étaient heureux. Les autres étaient meilleurs. Fait que moi, je voulais ce que les autres avaient. Je regardais les gens qui avaient l'air normaux, parce que moi, je l'étais pas. Puis là, je me disais, OK, les autres, ils vont à l'école. Ah ben, OK. Je voulais tout faire comme les autres. Parce que la vérité était dans les autres. Elle n'était pas en moi, ça c'était certain. Je suis arrivée à Montréal. J'ai quitté mon laurier. Et là, j'ai commencé le cégep. Et là, j'ai pas bu non plus, tu sais, j'étais pas alcoolique, j'avais pas développé la maladie physique encore. Donc, j'ai commencé mes études au cégep, après ça, je suis allée à l'université. Et tu sais, j'étais vraiment une bonne petite fille, là, j'étais préposée aux bénéficiaires, j'habitais en colocation, je travaillais fort comme préposée, j'étudiais à temps plein. Et j'ai étudié un petit bout de temps et puis ça va m'amener dans un autre chapitre de ma vie.
Voici, c'est le premier segment du partage de Marie-Josée qu'elle nous explique tellement bien. Marie-Josée, elle a une façon de décrire les choses que j'aime beaucoup. Elle a beaucoup d'images. Puis on peut suivre le cours de son histoire dans un livre d'histoire, tu sais, avec les dessins. Tu sais, moi, je trouve que c'est un peu comme ça. Puis c'est ça. Elle a une enfance quand même, comme elle le dit si bien, hors de la norme. Ramenez-vous à l'époque là, de ces années-là. Elle est née en 69, donc, tu sais, dans les années 70, là. Et puis, partir quand même de la ville, mettons, à la jeune adolescence, puis de partir dans un autre mode complètement de fonctionnement à la campagne, comme nous explique, c'est quand même tout qu'un tournant. Puis, tu sais, oui, avec papa, maman et tout ça, mais pas dans la façon dont on pourrait croire ce que les autres normaux, comme elle dit. Mais j'aime ça quand même, mais on peut comprendre sa volonté déchaînée de devenir une personne normale ou ses envies d'être comme les autres. Avec ça, on va tout de suite à la pause, puis on va revenir écouter la suite de l'histoire de Marie-Josée.
Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois » avec une lecture de la littérature AA. J'ai choisi aujourd'hui de vous lire un court texte inspiré du livre « Nous en sommes venus à croire ». Alors, c'est la page 49. C'est pas écrit dessus, j'ai cherché, excusez-moi. Alors, elle se prénomme Lâcher prise. Depuis longtemps, j'avais en tête l'idée de réussir, d'avoir raison, d'être importante. Si je lâchais prise, je ne serais personne. Pourtant, qui étais-je? Simplement une alcoolique têtue. Maintenant, je commence à comprendre que lâcher prise ne veut pas dire démissionner. Cela signifie m'ouvrir à de nouvelles perspectives. J'ai connu des moments que je pourrais qualifier d'extase. Je suis à la fois émerveillée et effrayée. Je me dis, je ferais mieux de ne pas trop aimer cette situation car elle ne durera pas. C'est tellement difficile pour moi de dire, d'accord, tu as eu un moment de lucidité, accepte-le. Le programme DAA nous dit « Nous avons à t'offrir quelque chose qui va vraiment t'aider. Si tu cesses de courir un instant et si tu te détends. Il ne s'agit pas de choses qui vont me rendre spéciale ou me procurer un meilleur emploi ou me faire devenir importante. Elles vont seulement m'offrir un très beau mode de vie. Quand je dis « Je veux connaître un peu l'esprit qui réside en moi », vous me répondez « Vas-y ». Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Les ténèbres que tu rencontreras ne dureront pas parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour t'aider. San Francisco, Californie. Voici ce que je voulais partager, ce petit bout de lecture. Puis, pour retrouver Marie-Josée dans son partage qui nous expliquait ben, son enfance, elle était rendue aussi passée l'adolescence. Elle n'a pas la consommation encore dans sa vie. Là. C'est pas ça qui a pu, mettons, colorer son adolescence. Puis c'était plutôt une volonté de devenir quelqu'un, une volonté d'être autre chose que ce qu'elle connaît. Puis aussi... elle avait beaucoup, beaucoup le regard sur les autres. Elle voulait devenir comme les autres gens normaux parce qu'elle se trouvait tellement pas bien. Alors, ça l'exprime beaucoup comment on se sent souvent très mal dans sa peau. Les alcooliques, on a souvent ça comme comportement ou attitude envers soi en commun. On a souvent ça. Alors, maintenant, ben, je vous laisse entendre Marie-Josée. Qui va nous partager encore un deuxième segment de son histoire, elle.
Merci, Isabelle. Quelle belle lecture, hein? Courir, comme ça disait, courir. Donc, moi, rendue à début vingtaine, fin 18-19 ans, je me hâtais de devenir quelqu'un, je me dépêchais, je courais après quelque chose. En fait, je voulais me trouver. Je voulais me trouver une identité. Et puis, c'était toute qu'une job parce que je savais pas du tout qui j'étais. Je voulais combler un vide total. Mais tu sais, dans ce temps-là, je le savais pas. Moi, j'étais certaine qu'en devenant quelqu'un, en ayant des choses, en faisant des choses, ben, j'étais convaincue que j'allais devenir quelqu'un. Maintenant, je le vois autrement. Je le vois maintenant que, dans le fond, c'était ma volonté déchaînée qui était ma motivation. Parce que je voulais devenir quelqu'un avec des choses extérieures à moi et non pas dans ma propre vérité. Ça, c'est le mouvement des alcooliques anonymes qui m'a appris ça. Donc, là, j'ai commencé à étudier à l'université. J'ai étudié en psychoéducation en premier. J'ai fait un bac. Il n'y avait pas de job dans ce temps-là. J'étais encore préposée aux bénéficiaires. Ensuite de ça, j'ai fait un autre bac parce que c'était passé. Là, parce que je me sentais aussi nulle, là, avec un bac. Tu sais, je me sentais autant anormale. Fait qu'un bac, c'était pas assez. Tu sais, là, je me suis dit, je vais aller en faire un deuxième. Puis après ça, une maîtrise. Mais je me sentais aussi nulle, aussi vide, aussi mauvaise même. C'était très profond, le sentiment de honte que j'avais. Et à l'âge de 25 ans, j'ai commencé à travailler dans le domaine où j'ai étudié, dans le domaine de l'éducation. Et je me sentais tellement imposteur, pas à ma place, mais en même temps, je voulais être quelqu'un. Fait que j'étais tout le temps tiraillée entre ces deux sentiments-là, vouloir être quelqu'un, mais pas me sentir à ma place. Et bon, pour une petite parenthèse sur la consommation, dans ce temps-là, je buvais seulement avec des amis dans des parties. Au début de la vingtaine, en colocation avec des Français qui aimaient beaucoup le vin, dans des 5 à 7, mais j'étais capable de m'arrêter. Tu sais, je virais une bonne brosse, là, mais le lendemain, j'étais pas obsédée par l'alcool. Je pouvais être 2 mois sans boire, 3 mois, je pouvais être 1 an sans boire, c'était pas au centre de ma vie. Donc là, j'ai commencé à travailler à 25 ans. Là, je regardais le monde normal, hein, tout le temps. Là, qu'est-ce qu'ils faisaient les autres qui étaient normaux? Parce que eux autres, ils avaient l'air heureux, tu sais. Moi, je l'étais pas. Puis je me sentais nulle, comme une vidange. Là, les autres, ils voyageaient. Donc, je me suis dit, ah, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse pour être heureuse. Fait que là, j'ai commencé à voyager. Beaucoup dans le plein air, beaucoup dans l'entraînement physique, dans l'exercice. Beaucoup de natation, de course à pied, de vélo. Donc, c'était comme une façon pour moi de me purifier à travers l'exercice physique. Mais je me sentais jamais purifiée. Je me sentais jamais bien dans ma peau. Et là, au début de la trentaine, j'ai commencé vraiment à me sentir avec un vide intérieur. Là, ma consommation d'alcool a tranquillement augmenté. tranquillement, tu sais, comme à deux bières, mettons. Des fois, j'étais seule, j'allais faire du vélo, puis je revenais, puis là, je buvais deux bières pour me rafraîchir, tu sais. Puis moi, je suis mince, fait que je me disais, ah ben ça va être bon pour ma santé, tu sais, c'est bon pour la santé, de l'alcool comme ça en revenant d'un sport quand t'as eu chaud. Et mon désarroi intérieur augmentait aussi, mon vide intérieur augmentait. Début de la trentaine, tu sais, moi, je voulais pas d'enfants parce que je voulais rendre service à l'humanité, là. Je voulais pas me reproduire, tu sais. Puis je voulais pas d'enfants, c'était hors de question. Je voulais pas qu'il y ait une suite à ma lignée parentale parce que ça avait aucun bon sens d'où je venais. Tu sais, la problème de santé mentale profond, je voulais pas donner suite à ça. Là, à un moment donné, à l'âge de 33-34 ans, là, j'avais commencé à boire un petit peu. Seul, là, j'ai rencontré un homme qui allait devenir le père de mes enfants. Et lui, il habitait en banlieue. Moi, dans ce temps-là, j'habitais à Montréal, dans un petit condo, dans un quartier branché. Et là, lui, en banlieue, avec une piscine creusée, des belles headsets, un pick-up. Tu sais, moi, là, j'étais vraiment impressionnée de ça parce que j'ai été élevée dans la pauvreté. Ma mère qui était sur l'aide sociale, qui comptait ses sous. Mais lui, quand il m'a amenée dans sa maison, j'ai été complètement séduite. Et là, je me suis dit, ah, c'est ça qui me manquait pour devenir quelqu'un. C'est une piscine creusée, puis des... Tu sais, tout ça. Puis lui, ses parents étaient vraiment normaux. Il allait à la messe. Il était marié, ses parents. Lui, il m'inspirait la normalité, le bonheur, la confiance, la famille. Il m'inspirait tout ça. Alors, je suis déménagée avec lui. Là, j'avais 34 ans. Et peut-être un an plus tard, je suis devenue enceinte. Parce que lui, il voulait vraiment des enfants. Je me disais, tu sais, lui, étant donné qu'il est vraiment normal, et que moi, je suis vraiment anormale, complètement anormal, ben le mix des deux, ça devrait faire quelque chose qui a du bon sens entre les deux, tu sais. Puis étant donné qu'on était en banlieue, ça garantissait comme un bonheur à mes enfants, tu sais, vu qu'on était en banlieue, puis à moi aussi, tu sais, tout ce matériel-là autour, c'est comme c'était une garantie de bonheur. Et là, bon, je suis devenue enceinte, comme je disais tantôt. Là, à peut-être 5 mois de grossesse, il y a eu un problème. J'attendais des jumeaux, 2 petits garçons. Il y a eu un problème, j'ai eu un problème médical. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, bon, je suis allée à l'hôpital et les 2 petits garçons que je portais sont morts dans mon ventre. Donc, il a fallu que j'accouche de 2 petits garçons qui étaient décédés. Et ça, suite à ça, là, j'avais 35 ans. Là, je le dis rapidement parce que, tu sais, ça a été un gros choc dans ma vie, une grande peine. Maintenant, quand je vois quelqu'un qui perd un bébé ou, tu sais, je comprends tellement la peine que ça peut faire dans notre cœur. Puis, fait que suite à ces 2 pertes-là, mes 2 petits garçons, je les ai pris dans mes bras. Tu sais, l'infirmière, elle disait, c'est mieux de les prendre dans vos bras, vous pouvez les baptiser, tout ça. J'ai tous leurs souvenirs dans une petite boîte chez moi. Mais moi, suite à ça, j'ai fait une grosse dépression. Là, j'avais 35 ans, grosse dépression. Là, je me disais, ben bon sang, là, comment je vais faire pour être quelqu'un? Comment je vais faire? Il n'y a rien qui fonctionne. Rien ne fonctionne comme je le veux.
Mm-hmm. Bien important de dire comme je le veux. Merci Marie-Josée. Oh, toute une épreuve. À chaque fois que je t'entends raconter ce petit bout-là, ça me chavire là, complètement. Tu sais, je trouve tellement... c'est pratiquement inhumain hein, de vivre ça. Pourtant, ça arrive à beaucoup de femmes quand même, là, mais Seigneur, j'ose dire Seigneur, c'est une grosse souffrance, une grosse perte. Puis la dépression qui en a suivi, il y a tellement une baisse d'hormones aussi de toutes sortes. En tout cas, ça brasse de bien des affaires. Là, t'as 35 ans aussi, puis tu cherches le bonheur. Ouais, j'ai hâte de voir. Je connais un peu ton partage, mais c'est toujours un peu différent à chaque fois. J'entends toujours des nouvelles choses à chaque fois. Puis c'est ça la magie de AA aussi. On apprend tellement des autres. Puis ça, c'est une grande guérison aussi intérieure pour chacun de nous. Alors, merci Marie-Josée pour le deuxième segment. On va te retrouver tout de suite après la pause.
Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidée à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur AA.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Bonjour, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois avec Marie-Josée. Avant de retourner à notre invité, je vais vous lire comment aller voir nos émissions. Donc, nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Et ce site est un jour à la fois, trait-d'union-émission.org. Tout ça est en minuscule, bien sûr. Alors, par le site Internet de la région 87 aussi, vous pouvez aller voir nos émissions de radio. Alors, c'est sur aa87.org. Vous aurez accès à nos enregistrements sous forme de podcast pour 2020 et 2021. Tantôt, Marie-Josée, justement, disait qu'elle était une fidèle auditrice de nos podcasts, ainsi qu'aux archives de partage radio. Et si tu veux venir partager ton histoire personnelle à l'émission, tu n'as qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site. Notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal et vous êtes vraiment les bienvenus. Je vais être très heureuse de vous accueillir. Alors, la liste aussi de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion vont être sur le site également. Je vous invite à aller voir ça, aller écouter. Si vous écoutez en direct à la radio, c'est parfait. Vous avez d'autres méthodes aussi. Et puis, Marie-Josée qui est avec nous, mon amie Marie-Josée. Je suis tellement contente de l'avoir aujourd'hui dans le contexte d'une émission de radio comme ça. C'est différent. On rentre comme un peu plus dans notre bulle, on dirait. Dans une bulle, on est trois ici dans le studio. Alors, voilà, elle est rendue dans un moment triste de sa vie, là, tu sais, un moment difficile, une grosse épreuve. C'est comme ça qu'elle a terminé par nous raconter qu'elle avait perdu, donc, ses deux jumeaux. Et puis, elle rentre dans une autre phase de son histoire. C'est comme ça qu'elle nous a terminé ça tout à l'heure. Alors, on retourne vers Marie-Josée. À toi, ma chère.
Merci, Isabelle. Oui, c'est vrai, hein? On est comme dans un petit cocon ici, ensemble, les trois. Puis, tu sais, moi, je me rends compte qu'avec avec d'autres membres, il n'y a jamais de... Moi, j'ai pas peur de parler à d'autres membres, comme je pourrais avoir peur de parler avec des non-membres. C'est ça que ça fait le mouvement des alcooliques, un meeting, d'autres membres. Ça fait qu'on peut s'ouvrir puis être soi-même, sans la peur du jugement, du rejet ou tout ça. Puis moi, aujourd'hui, j'ai l'impression de venir vous raconter mes petits secrets. Puis étant donné qu'on est tous alcooliques, eh bien, personne ne va me juger, tu sais, parce qu'on a toute une ouverture du cœur, on a toutes souffert, on a toutes voulu mourir, on a toutes voulu en finir avec cette souffrance-là, cette obsession-là de l'alcool qui était plus fort que nous. Donc, tantôt, je disais que oui, j'ai perdu mes deux petits garçons. Je les ai accouchés et puis je les ai bercés. Suite à ça, c'est là que j'ai commencé à boire d'une façon obsessive. Ça s'est installé tranquillement. Tu sais, comme je buvais, mettons, je sais pas, deux fois par semaine, puis là, après ça, trois fois, puis tu sais, de plus en plus. Et là, de 35 à 38 ans, j'ai bu. Mais dans ma tête, à moi, je faisais une dépression, puis c'est pour ça que je buvais. Mon conjoint de l'époque, ben il me disait, voyons, Marie, t'as un problème, là. Puis là, je disais, ben non, c'est parce que j'étais très triste à l'intérieur. Parce que là, moi, tout ce que j'avais voulu dans la vie, c'est-à-dire devenir quelqu'un avec des diplômes, avec des voyages, avec une vie de banlieue, ben ça me donnait pas mon bonheur interne que je cherchais tant. Fait que là, je me disais, Dieu est contre moi. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire peut-être tantôt, c'est que moi, quand j'étais petite, adolescente, quand je vivais à Mont-Laurier avec ma famille anormale, j'appelle ça une famille anormale, ben tu sais, mon père, on avait un chien dans ce temps-là, et puis mon père, il avait appelé notre chien curé. Et mon père, quand il se fâchait, il sacrait souvent après Dieu. « Hostie, Dieu sale! » Puis des choses comme ça. Tu sais, fait que pour moi, Dieu, là, ça n'existait pas, Dieu. C'était de la grosse arnaque, tout ça, parce que c'est ça que j'avais appris. Fait que quand j'ai perdu les jumeaux, tout ça, tu sais, j'avais rien pour m'accrocher. J'avais aucune confiance en la vie, aucune confiance en moi. Je savais pas comment survivre à ça. Donc, l'alcool a été mon refuge pour m'anesthésier, pour oublier ma souffrance, pour la geler, pour pas la vivre. Mais, tu sais, ça, dans le fond, ce que ça a fait, c'est que ça a juste comme empiré mon allergie, dans le fond, c'est ça que ça a fait. Là, à l'âge de 38 ans, ben là, je suis devenue enceinte encore. J'ai eu mes deux enfants à 39 et 41 ans. Pendant mes grossesses, j'ai pas bu. J'ai allaité chacun de mes enfants pendant un an et demi. J'ai pas bu. Donc, j'ai été à peu près un gros 4-5 ans sans consommer, de 38 à 43 ans. Puis là, je me disais, hey, là, je l'ai l'affaire. Je vais être une mère top. Là, peut-être que je vais me sentir quelqu'un. Oh yeah! Ben non! Toi, même en lavant des couches, en faisant mes purées, en faisant du bénévolat auprès d'autres mères, tu sais, j'essayais de trouver une source de bonheur, mais en dedans de moi, j'avais encore ce sentiment de honte-là qui me suivait depuis ma jeunesse. Sentiment d'être mauvaise, de pas être à ma place, d'être un imposteur, de pas savoir pourquoi je vivais, de pas avoir un ancrage en moi, de me sentir comme une locataire de mon corps, tu sais, puis des fois même d'être en sous-location dans mon corps, tu sais, de me regarder par la fenêtre, tu sais, j'avais l'impression de pas m'habiter et surtout de pas savoir où je m'en allais, où je devais aller. Donc là, à 43 ans, avec un enfant de 20 mois et 4 ans, j'ai quitté le père de mes enfants. Et j'ai quitté la maison, je me suis acheté une autre maison qui était pas loin de sa maison à lui, à 2 minutes à pied. Là, j'ai 43 ans, je me retrouve dans cette nouvelle maison-là qui était bâtie en 1968 avec mes enfants en garde partagée, mon boulot qui est très demandant. Et j'entreprends quelques rénovations. Je suis seule une semaine sur deux. Et là, j'ai juste un mot qui me vient à l'esprit. Je commence à capoter ben raide, à me dire qu'est-ce que j'ai fait là. Je savais que c'était le bon choix de quitter le père de mes enfants, mais en même temps, la culpabilité. Oh là là! Et là, ben qu'est-ce que j'ai fait pour endormir tout ça? Ma solution à moi, c'était de recommencer à boire tranquillement, mais sûrement. Donc, de 43 à 47 ans, j'ai bu de plus en plus. Et de pire en pire, à la fin, à 47 ans, je buvais à presque tous les jours à partir de 5 heures parce que j'étais quand même fonctionnelle. J'avais mon travail. Moi, je travaille en relation d'aide, en éducation. Dans le domaine d'éducation, je suis enseignante, donc j'arrivais le matin, je mangeais des tonnes de gomme pour pas que mes étudiants le sentent, tu sais, puis je performais quand même à mon boulot. Donc, je me disais, je peux pas être une alcoolique, tu sais, j'ai ma maison, mes deux enfants, mon char, je fais mon gazon, tu sais, je suis fonctionnelle. Qu'est-ce que j'ai, donc, que je suis pas capable d'arrêter de boire? Ah, ça doit être à cause de ma famille, parce qu'il y a plein de problèmes de santé mentale chez moi, du côté de ma mère surtout. Donc, je dois être un mélange de schizophrénie, TPL, psychose, tu sais, fais un mot avec tout ça, puis ça devait être moi, ça, psycho-schizo-TPL, tu sais, quelque chose de même, avec un mélange de dépression, là. Tu sais, fait que ça, ça faisait beaucoup de maladies, tu sais, que je pensais que j'avais, et je ne savais pas qu'est-ce que c'était l'alcoolisme. Ce qui est sûr à la fin de ma consommation, c'est que je me nourrissais plus. J'étais plus capable. La nourriture, j'étais plus capable. Là. Fait que moi, je buvais seulement à partir de 5 heures l'après-midi. Puis le matin, je buvais du café, 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 café. Puis là, je switchais, puis je commençais à boire de l'alcool vers 5 heures. Mon entourage le savait pas, mes enfants non plus. Je prenais soin quand même de mes enfants. Et je mangeais tellement pu, tu sais, que j'étais rendue que... J'aime ça dire ça, tu sais, l'alcool, qu'est-ce que ça fait au corps. Je perdais mes ongles d'orteils tellement que mon corps commençait à lâcher. Je perdais des cheveux. J'avais les yeux complètement enflés, la face enflée. J'étais obsédée complètement par l'alcool. Je me levais le matin, puis je me disais... Non, aujourd'hui, là, je bois pas. Mais plus que je me le disais, plus que finalement je buvais le soir, j'étais incapable de me sortir de ça. Incapable. Et un jour, j'ai appelé le 911 pour qu'il vienne me chercher. Je suis rentrée à l'hôpital en psychiatrie. Et là, le psychiatre, il m'a dit « Peut-être que vous devriez faire un meeting. » Ah, ah. Là, j'ai fait « Ah, d'accord, parfait. » Alors, je suis allée faire un meeting. Et j'ai fait un meeting et c'est la première fois que j'ai rencontré, que je t'ai rencontré, toi, ma chère Isabelle. T'étais avec une autre femme qui allait devenir ma marraine, notre chère marraine, hein, qu'on aime tant. Donc là, j'ai commencé à avoir une discussion avec Michel. Puis là, moi, je pouvais pas arrêter de boire. J'étais incapable parce que j'étais en guerre. En guerre contre la vie, je pouvais pas arrêter de boire. Comment j'allais faire?
Ah oui, Marie-Josée, je me souviens bien, m'en souviens très bien de ton premier meeting, de ton entrée un mercredi soir. Ah oui, c'est ça, je pense que c'est ça aussi qui me rend attachée à toi. Cet attachement qu'on a les uns envers les autres, souvent les alcooliques, des fois, c'est plus un que l'autre pour des situations comme celle-ci. Quand on m'avait approché, on me disait « Ah, on a une nouvelle », tu sais, puis ça nous rapproche aussi dans le sens qu'on a un rétablissement différent, mais en même temps relié. Moi, ce que j'aime aussi, comme vous avez pu le constater, c'est qu'elle raconte bien. Moi, je l'ai dit au départ, puis je le dis encore, j'aime beaucoup comment elle raconte les choses. Marie-Josée, elle a un don pour raconter. Alors, j'ai bien hâte de la retrouver. On va aller à la pause.
Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au AA.org. Les alcooliques anonymes.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
De retour, chers auditeurs, à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, je vous invite à consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec. C'est sur aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Par exemple, si vous ressentez le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouvera. Il y a quelqu'un sur la ligne qui est là pour vous. Et la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Et puis, il y a des réunions Zoom maintenant, il y a des réunions aussi téléphoniques, ça s'appelle Au bout du fil. Alors, sur le site de la région 87, là, vous allez trouver vraiment la liste complète des meetings aussi en salle qui commencent à se réouvrir là, de plus en plus. Si vous en avez pas dans votre coin, vous avez le Zoom. Si vous en avez pas, à 8h, 19h à chaque jour presque, il y a des meetings téléphoniques, donc, tu sais, beaucoup d'outils pour vous rétablir. Et là, nous allons vers le quatrième segment de ce beau partage de Marie-Josée, qui atterrit enfin parmi nous, après une prise de conscience là, à l'hôpital en plus, là, pour aller découvrir le mouvement des alcooliques anonymes. Et puis, ouais, c'est ça. Fait qu'on va entendre le dernier segment pour découvrir son rétablissement. Alors, à toi, ma chère Marie-Josée.
Merci, Isabelle. Oui, quand j'ai fait mon premier meeting, un mercredi soir, c'était un meeting discussion. Et là, je me disais, bon, je commence des meetings, je devrais être capable d'arrêter de boire. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Là, on était environ au mois de mars, en 2017, début mars environ, ouais, dans ce coin-là, fin février peut-être, début mars. Là, je commençais des meetings, puis là, celle qui allait devenir ma marraine, elle avait pris mon numéro de téléphone, puis elle m'appelait de temps en temps, parce qu'elle le savait que si je prenais le sien, je l'appellerais pas. Fait que c'est elle qui m'appelait. Et puis là, elle voyait que j'étais en consommation souvent, elle m'appelait le soir. Puis j'étais incapable d'arrêter. Comme je disais avant la pause, j'étais en guerre. J'avais une guerre intérieure, tu sais, puis je sortais de chez moi. J'aime ça dire ça. Il y avait comme deux tranchées. Une tranchée qui menait à la SAC, puis une tranchée qui allait au dépanneur. C'était mes deux seuls chemins que je connaissais. Puis j'appelais ça des tranchées parce que je me cachais pour aller consommer. J'allais chercher ma consommation, je revenais chez moi. Je buvais dans ma cuisine et j'étais pas capable d'arrêter même si je faisais des meetings. Puis un soir, Michel, ma marraine, me dit, là, je lui dis, faudrait que j'aille faire une thérapie, je suis pas capable, mais j'ai mes enfants, puis j'ai ma job, puis tu sais, beaucoup d'apitoiement avec ça. Puis là, elle me dit, mais Marie-Josée, tu sais, t'as pas besoin de le savoir, qu'est-ce qui va se passer en thérapie, car eux, ils vont le savoir quoi faire. Fait que là, quand elle me dit ça, tu sais, parce que moi, je savais pas qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce que j'allais faire, puis que là, Michel me dise, mais c'est pas grave, t'as pas besoin de le savoir, eux, ils vont le savoir. Il y a comme quelque chose qui s'est allumé en dedans de moi, tu sais. Puis c'est là, à ce moment-là, je suis rentrée en thérapie, on était le 20 mars 2017. Et petite anecdote, tu sais, je suis allée dans une maison de thérapie pour femmes à Sainte-Agathe, tout près de Sainte-Agathe. Puis le 20 mars, tu sais, moi j'écoutais Radio-Canada en m'en allant. Puis j'étais une fille des Laurentides, fait que j'avais vraiment l'impression de rentrer à la maison, mais aussi j'avais l'impression de m'en aller à la morgue parce que j'étais morte. Hein, j'avais perdu mes ongles d'orteils, une coupe de cheveux, tout ça. Fait, et là j'entends la radio. Aujourd'hui, nos chers auditeurs, en cette journée internationale du bonheur. Aïe, aïe, là, je me dis, c'est pas vrai, c'est pas la journée internationale du bonheur. Hey, tu parles de... Là, je me dis, hey, c'est pas vrai. Mais oui, c'est vrai, le 20 mars, c'est la journée mondiale du bonheur. Puis je le savais pas, mais c'est une nouvelle vie qui allait commencer pour moi. Rendue en thérapie, ben là, j'ai appris que j'étais une alcoolique. J'ai appris que c'était une maladie. J'ai appris que je n'étais pas le poison, mais que le poison était l'alcool, la bouteille, et que si je prenais une consommation... bon, excusez, il va couper, là, ça me... J'avais peur de me mettre à tousser, hein, parce que j'ai des allergies.
Aucun problème. On va le calculer, là.
Donc, rendu en thérapie, là, j'ai découvert les 12 étapes, le mouvement. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça revient?
Pas grave.
Non? Mon Dieu, je suis pas habituée de parler comme ça.
Tu tousses.
OK.
C'est tout, il va le couper. Là,
ça fait des grosses affaires. Là.
L'autre fois, ça m'est arrivé pendant que ma fille allait se faire vacciner.
Ah oui?
Tu sais, dans un centre de vaccination COVID, tu te mets à tousser de même, écoute, je suis sortie. Bon, OK.
Je vais te faire regarder.
Donc, j'ai découvert les 12 étapes. Et aussi, ce que j'ai découvert, c'est d'autres femmes qui souffraient comme moi à cause de cette maladie-là. Je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule. On le dit souvent dans le mouvement des alcooliques anonymes, le « nous », c'est si important, hein? Tellement important. Donc, j'ai fait 3 semaines de thérapie, j'ai fait beaucoup de cheminement, j'ai appris à me dissocier de la maladie, de la bouteille. Je suis sortie le 10 avril avec un plan de sortie. Hein. Là, c'était super important de respecter mon plan de sortie, faire des meetings, appeler ma marraine, m'impliquer, lire la littérature à tous les matins. Donc, j'ai fait tout ça d'une façon très assidue parce que je ne voulais pas reprendre mon premier verre. Donc, je me suis mis des prières dans ma chambre. J'ai collé des prières que j'ai écrites moi-même, que j'ai pris de AA, les fameux slogans. Agir aisément, un jour à la fois. Tu sais, on en a plein. Vivre et laisser vivre. Agir aisément. Ce slogan-là, je l'aime tellement. Agir aisément. Ça, là, je pense que c'est un des slogans qui m'aide le plus, agir aisément, parce que moi, dans mon vécu, j'ai toujours voulu être quelqu'un avec ma volonté déchaînée. Donc, pour moi, me rétablir, ben, il faut que je sois quelqu'un dans mon rétablissement, hein? Mais pour ça, il faut que je me laisse vivre, tu sais, vivre et laisser vivre. Me laisser vivre mon cheminement, ma vie. Les 12 étapes, ça m'apprend à vivre ma vie d'être humain et non pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ça m'apprend à accepter qui je suis, comment je suis, qu'est-ce que je peux apporter à la vie. C'est ça, comme je disais tantôt, là, je me suis impliquée dans les meetings, j'ai trouvé un meeting d'attache, j'ai fait des partages. Puis, tu sais, pour moi, le plus important, ce que ça a fait, les 12 étapes, c'est de m'apprendre à voir la vie autrement, d'une façon, tu sais, c'est sûr, sans alcool, mais c'est de tout apprendre à changer ma façon de penser face à la vie, face aux autres. Aussi, ça m'a appris que il y avait plein d'autres alcooliques comme moi qui pouvaient souffrir de temps en temps et que je pouvais partager avec ces gens-là en m'ouvrant aux autres, en les écoutant aussi, ben ça fait que je peux me sentir reliée à un autre être humain. On dit souvent dans le mouvement que Dieu passe à travers les êtres humains. Puis maintenant, où j'en suis dans ma vie, c'est que je le sais que si je me sens pas reliée aux autres humains, autour de moi, ben je peux pas me rétablir. Je dois me sentir reliée pour être capable de me rétablir parce que mon rétablissement peut pas se faire si je me sens seule, isolée chez moi. Si je m'isole chez moi, ça va juste faire que mon ego, mon vieux moi, va se remettre à marcher. Donc, l'orgueil, tous mes défauts, vouloir me penser meilleur que les autres, avoir raison, tout vouloir décider, être dans le ressentiment, tout ça, ça revient si je fais pas de meeting, si je pratique pas les 12 étapes dans mon quotidien, si je médite pas, si j'écoute pas. Je pense que c'est la 11e étape. Nous avons cherché par la prière et la méditation un contact conscient avec Dieu. Ça, pour moi, c'est tellement important parce que j'ai beau prier, là, mon Dieu, tu sais, dis-moi quoi faire, ou aide-moi, je sais pas quoi faire. Je peux prier, 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 mais si j'écoute pas sa réponse à mon Dieu d'amour intérieur, je ne saurai pas plus quoi faire. Donc, pour moi, savoir écouter à l'intérieur de moi pour me guider, c'est très important. Et souvent, je me le dis, tu sais, agir aisément. Pour moi, c'est ça, agir aisément. Il y a aussi, on en parlait plus tôt, Isabelle, dans le mouvement des Al-Anon, se hâter lentement, ça revient un petit peu au même, hein? Donc être capable d'agir tranquillement, parce que dans la volonté de se rétablir, on peut devenir déchaîné aussi. Pour moi, là, ça serait très facile de me déchaîner dans mon rétablissement. Donc, c'est ça que j'apprends. Il y a un jour, il y a une madame qui m'avait dit qu'elle faisait beaucoup de meetings parce que Elle aimait ça, puis elle m'avait dit, tu vas voir Marie-Josée, la vie, à un moment donné, ça va devenir comme un gros meeting, tu vas aimer ça comme les meetings. C'est un endroit où je peux aller à la rencontre des autres en me sentant reliée à eux, un peu à tout le monde. Alors, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée.
Merci Marie-Josée pour ta belle générosité. Merci à Richard, aussi à la console. Merci à toute l'équipe. Merci les chers auditeurs d'être avec nous. Et puis les collaborateurs et radiodiffuseurs aussi, un grand merci. Alors ici votre animatrice Isabelle. Je vous souhaite une super belle semaine et à très bientôt.